Alors bonjour à chacun, merci de vous être déplacés. Je vous invite à remettre ce moment dans la prière. Oui Seigneur Jésus, merci pour cette liberté que nous avons de nous retrouver devant toi, pour ouvrir ta parole, pour t'écouter, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous te remettons ce moment, que tu le bénisses, que tu bénisses tout particulièrement Frédéric qui va nous apporter une réflexion, un partage sur ce sujet de l'argent. Nous te remettons aussi chacun de nos cœurs afin que tu nous disposes à écouter ce que tu veux nous dire, que tu fasses silence dans nos cœurs, que ce temps soit vraiment mis à part pour t'écouter. Merci parce que tu veux nous apporter des choses précises, concrètes, et nous te remettons vraiment ce temps afin que ce soit un temps utile et un temps béni. Amen. Juste quelques mots pour présenter Frédéric, bien qu'il soit bien connu chez nous. La dernière fois qu'il était ici, c'était il y a 2 ans, à la fin du club d'été. C'est juste, déjà 2 ans, mais en même temps que 2 ans. Donc Frédéric est pasteur, évangéliste itinérant. Il a travaillé dans le cadre de France Évangélisation, c'est juste, jusqu'à il y a 4 ans. Hein. Ouais. Maintenant, il est directeur du concours biblique près de Valence. Il habite le Gard, donc pas mal de temps, j'imagine, passé sur la route aussi. Voilà, sinon je te laisse la place, si tu veux peut-être compléter aussi cette brève présentation.
Voilà, je suis très heureux de me retrouver parmi vous, de revoir des visages connus, d'autres moins, ou pas du tout. Donc, comme souvent cela m'est rappelé, quand je commence à prendre la parole, il paraît que ça réchauffe l'atmosphère, que le soleil n'est pas loin. Donc, effectivement, j'habite dans le Midi, en Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard, et je travaille aussi en Ardèche, au concours biblique, mais bon, je n'y suis pas non plus tous les jours. Et grâce à Internet, maintenant, on arrive à travailler assez éloignés les uns des autres. Voilà, sinon, il y a 4 ans, j'étais encore en France Évangélisation. Je suis dans ma 29e année de ministère pastoral et itinérant en même temps. Voilà, donc j'ai été 13 années pasteur aussi sédentaire dans le Midi de la France. Voilà un thème un peu particulier. Vous avez choisi celui-ci, vous avez été courageux, c'est bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde d'ailleurs. Ils ont eu peur que je fasse une collecte avec une bassine, comme ça se fait dans certains milieux. Bon, je vous rassure, vous pouvez revenir tout à l'heure, il n'y aura pas de collecte à la sortie. Ce sera pour demain, oui. Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas un spécialiste de la question sur le thème de l'argent. J'ai entamé une réflexion sur le sujet parce que, pour 2 raisons, enfin, ou en tout cas, deux motivations. La première, c'est qu'il y a 3 ans, lorsque j'ai écrit la biographie sur André Adoul, qui a été auteur, en lisant, relisant certains de ses livres pour me familiariser un petit peu avec lui dans ses écrits, j'ai relu ce fameux livre qu'il avait sorti en fin des années 70, Dieu et mes sous, qui à l'époque d'ailleurs était assez gonflé, parce que on n'en parlait pas beaucoup et on n'en parle pas non plus beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, mais bon. Et donc, c'est en relisant ce bouquin que je me suis dit, mais voilà un sujet qui est pertinent et il faut en parler et en reparler. Voilà, donc je me suis inspiré un petit peu de ce que déjà André avait réfléchi et actualisé, modernisé, bien évidemment, par rapport à notre société. Et puis, la deuxième raison, c'est que tout en me rappelant de l'importance de ce sujet, je me suis dit, c'est pas évident pour les églises d'en parler. J'ai été pasteur, je sais ce que c'est. Quand un pasteur se met à parler de l'argent, on peut soupçonner qu'il a envie de demander une augmentation de salaire. ou qu'il y a un problème dans la trésorerie et ça va sortir à la prochaine assemblée générale. Voilà, c'est pas évident, il faut le reconnaître. C'est dans ce but-là que je me suis dit, je vais proposer ce thème-là aux églises, si ça les intéresse. Et voilà, vous avez été intéressés, donc on va essayer de partager quelques réflexions sur ce thème-là. Quelqu'un a dit que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, tout dépend comment on l'acquiert et comment on l'emploie. Il occupe une grande place dans notre vie et particulièrement dans notre société du XXIe siècle. Qu'est-ce que l'argent pour nous? Peut-être que déjà en venant cet après-midi, vous vous êtes déjà posé la question. Qu'est-ce que l'argent pour nous? Quelle valeur a-t-il réellement? Est-il un dieu ou un moyen de servir Dieu? Je pense que ça vaut la peine de s'interroger. Et je vous propose, pour répondre à cette question et voir comment on peut se situer, comment on agit aujourd'hui, de le développer en deux parties. La première partie, nous allons le voir maintenant, je vais parler sur la puissance qui régit l'argent, c'est-à-dire Mammon, et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là. Et tout à l'heure, après le repas, nous parlerons de l'attitude qui s'oppose à Mammon, c'est le fait de donner la place à Dieu. Et on va voir qu'est-ce que cela implique, selon le Nouveau Testament en particulier, que de donner la place à Dieu d'abord. Donc, premier point que nous partageons, première pensée, la puissance qui régit l'argent. On le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il en faut. Et par extension, on utilise donc cette expression pour tout problème dont la source et la solution est pécuniaire. Ce proverbe latin est cité par Cicéron et semble dériver de l'expression « l'argent est le nerf des affaires ». Et ça aussi, c'est compréhensible. Il semble avoir d'ailleurs, cette expression été rendue populaire en France par Rabelais dans Gargantua. Petit peu d'histoire hein, à ce sujet. Donc l'argent est une valeur d'échange, que le roi lui-même, Salomon, dans l'Ancien Testament, décrivait ainsi, l'argent répond à tout, dans l'Ecclésiaste. Alors, on a aussi des proverbes, des boutades, qui sont souvent l'expression de la culture populaire. J'ai relevé comme la suivante, l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, nous sommes quand même tous intéressés par un salaire ou la retraite. Mais voilà, on ne fait pas l'amalgame entre les uns les choses, en tout cas, il ne faut pas tout mélanger. Ou bien encore cette expression, peine d'argent n'est pas mortelle. Allez dire cela à votre banquier si vous êtes dans le rouge et vous verrez sa réaction. Hein? L'argent est bon serviteur ou mauvais maître? C'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver. En dépit donc de cette décontraction affichée, superficielle, avec les jeux, tirages de loto, etc., les choses auxquelles le chrétien ne prend pas part, eh bien les traditions culturelles et religieuses continuent de peser sur nos comportements, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi il demeure toujours très difficile, dans notre pays, en France, d'interroger une personne sur ses revenus. On ne le fait pas facilement. Bien plus, peut-être, que sur sa vie sentimentale ou amoureuse. Dans les journaux à scandale, c'est plus de ce côté-là que les choses sont développées. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous vous étiez reconnus en fonction de votre métier. Et la question qu'on pose même encore plus facilement, mais moins peut-être, qu'est-ce que vous faites? Et en fonction de cela, eh bien, on a une idée. Aujourd'hui, nous sommes catalogués non pas sur ce que nous faisons, mais en fonction de ce que nous gagnons. Et comme on n'en parle pas, ou très peu, ben finalement, on passe un peu au travers des gouttes. Nous sommes bon gré malgré donc bercés par une culture argent dès notre plus jeune âge. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, eh bien, inconsciemment, nous transportons avec nous, à l'intérieur de l'Église, une certaine mentalité, une certaine culture que nous avons entendue, dans laquelle nous avons été bénis. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur d'ôter de nos mentalités ce qui est mauvais et en même temps, ou en amont, de lui demander qu'on le discerne. Et c'est le but un petit peu de ces études. Que l'Esprit donc de Dieu nous donne d'avoir un autre regard, et c'est un travail en profondeur peut-être de notre âme, car la culture c'est quelque chose qui nous tient parce qu'on en a été modelé, forgé, formaté par elle. Et dans un monde aujourd'hui où l'argent est roi, où il est le prince, on va le voir par Mammon, eh bien on a tendance un petit peu, nous aussi, on pourrait avoir tendance à se laisser un petit peu piéger. Et en même temps, ce qui est extraordinaire et ce qui est, on va le voir, magnifique, c'est que le thème de l'argent est crucial dans la Bible. Cela se voit à travers les innombrables passages qui en parlent. Par exemple, sur les paraboles de Jésus, une petite quarantaine, vous en avez plus de la moitié qui traitent sur le thème de l'argent. Jésus parle davantage sur ce thème-là, en même temps des richesses, que de l'enfer ou du ciel réunis. Dans les évangiles, un verset sur 10 traite de l'argent et des possessions. Ça peut être direct ou ça peut être indirect. Ce qui fait un total de presque 300 versets de la Bible, Nouveau Testament, pardon, dans les quatre évangiles, ce qui est énorme. Arrêtons-nous sur une parole de Jésus qui dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette citation est donnée deux fois dans les évangiles, Matthieu et Luc. Pour Matthieu, la citation s'inscrit dans le discours du sermon sur la montagne, soit au tout début du ministère de Jésus. Quant au second, Luc, il semble être plus tardif dans le temps et vient conclure la parabole de l'économe infidèle. Mammon est donc pour Dieu et pour le Seigneur synonyme d'argent. Alors la conclusion qui s'impose est que le chrétien doit renoncer totalement à l'argent et n'avoir rien à faire à lui. Dans les siècles passés ou encore aujourd'hui, des personnes ont cru cela et ont par conséquent fait vœu de pauvreté en évitant tout contact avec l'argent, cherchant ainsi à être entièrement consacré à Dieu, pensant que ne pas avoir de contact avec l'argent était une consécration totale à Dieu. Mais soyons clairs, le fait de faire vœu de pauvreté ne libère pas forcément de l'avarice ou de la peur de manquer du nécessaire. Je ne pense pas que la référence de Jésus à Mammon soit synonyme d'argent, au premier degré. Alors qui est Mammon ? En grec, mamosa, ou mamonas, pardon, signifie richesse et personnifié comme une divinité, puisque Jésus le met en opposition avec Dieu lui-même. Il représente le Dieu du matérialisme, qui, bien évidemment, a un contact étroit, un lien étroit avec l'argent, c'est évident. Mais c'est d'abord l'esprit du matérialisme qui conduit, en fait, ou peut conduire à l'amour de l'argent et à en devenir un serviteur. Dans son développement de Paul en 2 Timothée chapitre 3, lorsqu'il parle des signes des temps de la fin, où il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront, etc. etc. » À un moment donné, il dit « Ami de l'argent ». Ça fait partie d'un signe des temps de la fin. Donc Mammon est avant tout une puissance séductrice, démoniaque. Il entre dans la catégorie des puissances dans le domaine spirituel parce qu'il pousse le cœur des hommes à aimer et à servir l'argent dans le domaine matériel. Ainsi, nous devons bien comprendre que l'esprit démoniaque qui est derrière Mammon est encore à l'œuvre. Et il exige quoi ? D'être adoré, servi. Et c'est pour ça que Jésus précise, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cependant, nous devons prendre conscience et nous laisser persuader que l'argent n'a jamais été conçu pour être un but en soi, mais simplement un moyen par lequel je peux vivre sur cette terre. Il n'a jamais été conçu pour être mon maître, mais pour être au contraire mon serviteur. Bien entendu, il est évident que nous travaillons, je l'ai un petit peu sous-entendu et dit, pour gagner de l'argent et ainsi vivre. Mais en tant qu'enfants de Dieu, dans quel esprit nous nous plaçons par rapport justement à cette puissance dans ce domaine-là qui est derrière Mammon? Nous saisissons peut-être mieux alors le fait d'affirmer que la puissance se trouve bien sûr en Dieu et pas dans l'argent. Car c'est bien Dieu qui me donne la santé pour travailler, n'est-ce pas? Sans l'énergie que Dieu va me communiquer, sans les compétences qu'il accorde pour mener à bien une tâche, sans les conditions atmosphériques, par exemple, qui favorisent une récolte ou permettent le succès de l'entreprise, personne ne pourrait rien acquérir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous en sommes certainement conscients. Je dois donc me convaincre, s'il le faut, que tout ce que je possède est un don de Dieu. Et si j'ai plus que d'autres, c'est aussi un don de Dieu et une grâce. Si j'ai moins que d'autres, c'est un don de Dieu et une grâce. Paul parlera, lui, et c'est un thème que je ne développerai pas, du contentement dans l'Épître à Timothée en particulier. Je suis satisfait dans l'état où je me trouve. C'est une question aussi de confiance en Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, d'être dans le contentement, dans le domaine matériel. Et ce n'est pas forcément quelque chose de si évident à vivre. Pour Dieu, liquider notre avoir serait si vite fait, n'est-ce pas? Si Dieu a donné, dira l'Ecclésiaste, à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. La société des temps de la fin, décrite sous le nom de Babylone dans l'Apocalypse chapitre 18, c'est un sujet que j'avais traité avec vous il y a quelques années, semble être vue par Jean comme étant principalement sous le contrôle et la domination de Mammon, puisque la chute de cette ville, Babylone, provoque un désastre économique mondial. Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. On a derrière ce passage cet enrichissement, en tout cas cette puissance de Mammon à l'œuvre qui fera que quelque part, eh bien, ce sera un signe de la destruction de cette ville dont j'avais un petit peu expliqué ce qu'elle pouvait représenter par rapport, entre autres, à cette mondialisation dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques décennies maintenant et qui a fragilisé notre monde au niveau économique, entre autres. La planète tout entière est sous l'influence du prince de ce monde, nous le savons, Satan, dont la philosophie, entièrement opposée à celle de Jésus, proclame que la destinée de l'homme est d'amasser des trésors sur la terre, de chercher en eux la sécurité, de s'y attacher de tout son cœur. Et dans les évangiles, ces thèmes-là sont vraiment abordés par Jésus. Et nous sommes mis en garde de ces faits. C'est pourquoi dans la bouche de Jésus, Mammon est anti-Dieu. Il rivalise avec Dieu pour être servi. Et le but principal de l'esprit de Mammon, c'est vraiment d'obtenir l'adoration, l'amour, l'affection, la loyauté, le service, à travers tout ce qui a attrait, de près ou de loin, à l'argent. Jésus ne dit pas qu'il est mal de servir à la fois Dieu et Mammon. Non, il dit qu'il est impossible de les servir à la fois. L'expression « ne pas pouvoir » de Jésus, eh bien, fait qu'on ne peut pas avoir l'un et l'autre dans sa poche. On ne peut pas se baser sur l'un et sur l'autre. On ne peut pas faire confiance à l'un et à l'autre. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de proportionnalité entre l'un et l'autre. C'est pourquoi pour servir Dieu authentiquement, il faut renoncer à Mammon, n'avoir rien à faire avec lui. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, dit la traduction de Jérusalem, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et la traduction de Jérusalem, elle traduit Mammon par argent. Mais c'est plutôt pour moi quelque chose qui a trait à un sens un peu plus large au niveau du matérialisme. À cause de l'influence donc démoniaque qui exerce les biens et les richesses sur une personne qui s'y attache, eh bien nous devenons des idolâtres. Et je rappelle ce texte d'Éphésiens chapitre 5, « Sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, cupidité alliée à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. » Et on peut le comprendre. C'est l'un ou l'autre. Je rappelle dans le dialogue, dans le décalogue, Dieu dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Notre Dieu est un Dieu jaloux, nous le savons, et l'argent pourrait bien le remplacer. Donc nous avons un choix, une décision, les valeurs du ciel ou celles du monde, la vraie liberté de l'Évangile ou l'esclavage de Mammon. Remarquez que Jésus ne dit pas de choisir entre Dieu et Satan, mais bel et bien entre Dieu et Mammon. Pourquoi ? Bien parce que Satan est devenu maître dans l'art de manipuler les foules. Il sait que si l'on demande aux gens de choisir entre Dieu et Satan, personne ne le choisira, Satan. Ça paraît évident. C'est pourquoi derrière Mammon, Satan reste dans l'ombre, à l'abri des regards, tapis, prêt à bondir. Oui, derrière le matérialisme, derrière la richesse, à outrance, il y a la puissance de Satan. Et c'est de cette manière qu'il peut séduire beaucoup de gens et les enfermer dans son antre. Celui qui sert Mammon sert Satan. Et l'esprit de Mammon tient les clés du succès. Il tient les clés de la gloire, il tient les clés de la puissance et d'un certain bonheur que le monde a envie de trouver. Il rend la vie plus confortable, dit-on, plus sûre et donc apparemment plus agréable. Mais tout cela n'est que mensonge. Même si effectivement nous sommes conscients qu'il nous faut de l'argent pour vivre. C'est pourquoi l'assaut de Mammon, cette entité démoniaque, n'est pas frontal. Sa principale tactique consiste à inciter les personnes à le servir sans en avoir réellement conscience. Satan n'est pas appelé, ou est appelé plutôt le père du mensonge, il se déguise en ange de lumière, et c'est ainsi qu'il arrive à nous manipuler, ou en tout cas à manipuler ceux qui ne font pas cas, malheureusement et tristement aujourd'hui, de l'Évangile. Je pense que le mensonge de Mammon et de Satan réside particulièrement dans le fait de faire croire que l'argent possède un pouvoir. On estime souvent la valeur d'une personne au montant de ses avoirs. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les informations ou si vous lisez quelques journaux, mais au début de chaque année, on donne un podium, ou en tout cas on met en avant un podium particulier, celui des trois plus grandes fortunes du monde. Je me souviens en 2012, il y a déjà quelque temps, on apprenait ainsi qu'un Français était au pied de ce podium, en quatrième position. Dommage pour lui, il n'était pas sur les trois marches. Celui qui était sur la plus haute marche du podium pouvait à lui seul payer un smicard pendant plus de 2 millions d'années. 48 milliards de dollars d'argent. De fortune. Et nous pensons ou nous entendons dire qu'effectivement, celui qui possède beaucoup est considéré comme tout-puissant, alors que celui qui ne possède peu d'argent est privé de puissance. Et malheureusement, ça peut s'avérer exact. Mais là, il y a une puissance qui est terrible derrière. C'est celle de Satan. Je me souviens, mon fils, lorsqu'il est arrivé, il est en Afrique actuellement avec sa femme, lorsqu'il est arrivé les premières fois, en Guinée en particulier, il était stupéfait, me disait, avec un billet de 50 euros en poche, avec tout ce qu'il pouvait en fait acquérir quelque part. Et il me disait, mais c'est impressionnant, si on ne fait pas attention, ce pouvoir qu'on a vis-à-vis des gens qui sont devant nous et qui, quelque part, ben, eux, 50 euros, c'est presque 3 ou 4 mois de salaire, quoi. Et il me dit, voilà, j'ai ressenti cette puissance, alors que c'était pas, pour lui, ce n'était pas une grosse somme, hein, dans le contexte dans lequel il était. C'est pourquoi on peut dire qu'il n'est pas de religion mieux accueillie et plus répandue parmi les hommes que celle de Mammon, mais on ne se rend pas compte que ça peut être effectivement une religion, entre guillemets. Parce qu'au Dieu Mammon, je peux sacrifier mes pensées. Ne te fatigue pas, dit un texte du Proverbe, de t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Combien ceux, malheureusement, qui ont beaucoup et qui veulent essayer de ne pas trop perdre, eh bien, n'arrêtent pas de penser et de penser et de penser à la manière dont il faut que leur argent produise. Ça peut se comprendre, mais ça peut devenir complètement maladif, ou en tout cas prendre toutes ces pensées. Je peux sacrifier mon temps, je peux sacrifier mes forces, je peux sacrifier ma santé, mais je peux aussi sacrifier mes affections, ce que j'ai de plus cher au monde à cause de la puissance de Mammon, ma famille, mes proches. Faut-il rappeler l'exemple de ces familles apparemment unies et brusquement déchirées lorsque... Ah, j'ai oublié d'arrêter mon téléphone. Excusez-moi, ça m'arrive rarement. Pardon. Lorsque ces familles qui paraissent apparemment unies et qui, quelque part, se déchirent et se désunissent, vous savez à quel moment ? À la sortie de chez le notaire. Hein ? On arrive qu'on tienne difficilement ou peut-être davantage à un meuble branlant, à une terre ou à une maison, à quelques pièces d'or qu'à un frère ou une sœur. C'est dramatique, mais ça existe. À partir du moment où l'attitude d'une personne par rapport à l'argent est fausse, je pense que tous ses choix le sont également. Qu'elle se trouve soumise alors à la volonté de Satan qui se sert, nous l'avons compris, de cet appât qui fait croire que posséder est a un certain pouvoir. Je lis au texte, 1 Timothée chapitre 6, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, dit Paul à Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » Et on voit cette opposition que même Paul met en avant entre l'argent, hein, et tout ce qu'il peut comporter et apporter, et en même temps Dieu, hein, toi, homme de Dieu, fuis, et en même temps recherche ce qui est de la part de Dieu. Et Paul dit ici que l'amour de l'argent va s'enraciner. Il ne se voit peut-être pas forcément au premier abord, au premier regard. Mais ce fruit donne naissance à des formes multiples bien visibles qui apparaissent comme des lézardes sur un mur soumis à la forte pression des racines qui sont là-dessous et qui poussent et qui poussent. Ces fruits sont le mensonge, les disputes, les fraudes, le vol, le meurtre, la trahison. On pense à Judas en particulier dans le Nouveau Testament, il n'est pas le seul. L'abandon de la foi même, mais aussi pousse vers l'astrologie, l'occultisme, la prostitution, les débauches en tout genre, les commerces honteux, des stupéfiants, à cause de nombreux produits et profits que cela va produire. Et on peut rallonger bien évidemment encore la liste. Et le monde dans lequel nous nous trouvons montre bien que nous avons et que nous sommes et qu'il est sous cette puissance-là aujourd'hui. Il y a un exemple intéressant dans le livre des Actes des Apôtres que nous connaissons, mais je veux m'y arrêter 2 minutes. C'est l'exemple de Ananias et de Saphira, qui sont une démonstration de l'esprit de Mammon en action, au sein même, quelque part, du corps de Christ naissant à l'époque. En effet, ce couple apparemment généreux va mentir délibérément à Pierre, et donc à l'Église et au Saint-Esprit lui-même. Parce qu'ils ont retenu une partie du prix d'un champ qu'ils prétendent avoir tout entier consacré au Seigneur. Il faut rappeler un peu le contexte. Hein. Pourquoi ne disent-ils pas la vérité ? C'est-à-dire qu'ils gardent une partie de la somme pour eux, Pour quelle raison ne le disent-ils pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait à ce moment-là cette ambiance qui était que pour aider les personnes qui étaient en difficulté, et il faut savoir qu'à cette époque, les chrétiens, les nouveaux chrétiens nés de nouveau, ceux qui s'engageaient bien sûr derrière le Christ, étaient mal vus, mal considérés dans leur société et perdaient pour beaucoup leur emploi. Ils étaient dénigrés, mis de côté. Et il y avait aussi les veuves en particulier dont il fallait faire cas. Et c'est pour aider ces personnes qui n'avaient plus de travail ou en tout cas avaient besoin d'argent pour vivre qu'on avait organisé des collectes, qu'on mettait tout en commun et qu'on repartageait, qu'on redistribuait à ceux qui avaient besoin. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dès le chapitre 6 ou 7, lorsque des diacres sont mis en place, c'était vraiment pour servir et faire des prêts banques. Enfin, c'était le début des banques, hein. Il fallait gérer cet argent qui arrivait. Donc il y avait un élan de générosité énorme de la part des premiers chrétiens, et ce qui démontrait un peu, au travers des uns et des autres, cette volonté de plaire et de servir et d'obéir à Jésus-Christ. Et Ananias et Saphira, quelque part, veulent montrer aux autres un petit peu cet engagement, entre guillemets, spirituel, pour ne pas passer pour des rétrogrades ou pour des radins. Donc, ils amènent cet argent, mais ils ne disent pas tout ce qu'ils ont, tout ce que cet argent a rapporté. Et Pierre leur dit, « N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ?» Comme si Pierre disait, « Mais quelle mouche t'a piqué, Ananias, pour que tu t'embarques dans une telle mascarade ?» Tu as vendu ton champ 20 000 euros, très bien, c'est tant mieux. Mais tu m'aurais dit, je l'ai vendu 20 000 euros, je vous en donne 10 000 et j'en garde 10 000 pour moi, bravo, pas de problème, tu fais ce que tu veux, on ne t'impose rien. Ceux qui sont arrivés la bouche en cœur, en disant voilà, nous avons vendu notre champ 20 000 euros et nous en apportons... ils n'ont peut-être même pas dit la somme, mais en tout cas, ils disaient qu'ils avaient tout apporté alors qu'ils en avaient gardé une partie. Et à ce titre, ils ont menti, non pas à Pierre, mais à Dieu lui-même. Et vous savez que c'est le seul exemple dans le Nouveau Testament où nous avons Dieu qui intervient de façon radicale en les foudroyant sur place et en les tuant. Il y a un autre cas dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu courant, mais il y en a un, ce sont les deux fils de Aaron qui apportent dans le temple un feu qu'ils ne devaient pas apporter, un feu étranger, et ils sont foudroyés sur place par Dieu lui-même. Quand l'Écriture dit « Notre Dieu est un feu dévorant », on pourrait penser que ça a trait à l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle, et nous y sommes en plein avec Ananias et Saphira, Dieu est capable de faire lui-même justice, entre guillemets, lorsque son nom est bafoué. En tout cas, Pierre leur dit « Ce n'est pas à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit que vous avez menti, c'est donc à Dieu lui-même. » Et on verra dans la deuxième partie comment est-ce que comment on peut éviter de tomber dans ce travers par rapport justement à la manière dont on va nous gérer, et on en parlera ce soir, notre argent par rapport à l'Église et par rapport au monde. Je pense que Ananias et Saphira ont voulu passer pour des spirituels, comme les autres, comme la plupart, mais Dieu a révélé à Pierre par le Saint-Esprit qu'ils avaient menti. Ne savait-il pas, Ananias et Saphira, que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, et qu'on ne peut rien lui cacher? Mais voilà le démon Yvon. Connaissez le démon Yvon? Non? Connaissez pas le démon Yvon? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire si je fais pas ceci, fais pas cela, si je suis pas comme eux, ou ceci ou cela? Oui, nous sommes amenés à prendre nos propres responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Attention à l'esprit de jugement aussi, qui est un peu vite mis en avant et vite fait, parce que notre nature humaine souvent se laisse un peu piéger par cela. Peut-être Ananias et Saphira ont-ils voulu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire garder discrètement cet argent tout en voulant faire croire leur engagement et leur amour pour Jésus à travers cette générosité apparente. Voilà un exemple concret de l'avertissement de Jésus, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Cette peur du qu'en dira-t-on dans le domaine de l'argent, justement l'évangéliste André Adoul l'avait bien remarqué lorsqu'il écrit dans un de ses nombreux ouvrages, donc celui que j'ai nommé tout à l'heure, « Dieu et mes sous », je le cite, et vous avez la citation ici. « J'ai entendu des centaines de confessions, parfois compromettantes, au plus haut chef, après 60 ans de ministère. Hein. Le vol, le crime et l'adultère. Et pourtant, durant 40 années d'itinérance, je n'ai pas trouvé sur ma route, dit-il, un seul chrétien qui ait osé me dire « Je suis attaché aux richesses et dois reconnaître mon avarice ». Pourquoi, dit-il, cet aveu est-il quasiment inconnu dans l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, parce qu'il doit nécessairement s'accompagner d'actes de générosité. Qui s'humilie d'avoir aimé l'argent est tenu de délier sa bourse ou de distribuer certains biens qu'il chérit s'il ne veut pas être accusé d'hypocrite. Hélas, on ne s'avoue pas volontiers adorateur de Mammon. Et je trouve assez pertinent ce témoignage de cet évangéliste qui, comme il le dit, a vu beaucoup de cas. Mais celui-ci, apparemment, au moment où il a écrit ce livre, dans les années, début des années 80, eh bien, ça n'a pas été encore le cas. Il est nécessaire et vital d'identifier si je sers Mammon ou si je sers véritablement mon Dieu. Ce dernier ne veut-il pas m'amener à, si j'y consens, à laisser posséder ce que, jusque-là, j'ai peut-être été tenté d'appeler mon avoir ? Mon argent, mon patrimoine, toutes ces richesses qui ne sont reçues que par Dieu, comme un don, je l'ai dit, et employées comme propriété du Seigneur, est vaine et dangereuse. Paul dira à 1 Corinthiens 4, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et ça, c'est important de ne jamais l'oublier en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas nous laisser piéger par Mammon. Jésus nous interpelle aussi à ce sujet dans une parabole sur laquelle je vais m'arrêter, qui s'appelle « Le riche insensé ». Vous la connaissez, je pense, et on va s'y arrêter un moment et la décortiquer en quelques points. Dans Luc chapitre 12, je lis versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, « dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit alors cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Je crois qu'il y a trois leçons que l'on peut tirer de cette parabole. La première, c'est que le riche se croyait sage, mais en fait, c'est un insensé. On peut supposer que cet homme était envié aux yeux de ses proches, tant il avait de richesses. Mais aux yeux de Dieu, c'était un insensé qui faisait pitié. Le terme insensé, dans le langage biblique, ne fait pas référence aux capacités mentales, mais au discernement. Et dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes et les proverbes, un insensé ou un fou est un individu irréfléchi, qui prend des décisions comme si Dieu n'existait pas, qui occulte complètement Dieu dans sa vie, et on imagine alors qu'il y a beaucoup d'insensés autour de nous, qui vit aussi comme si Dieu ne parle pas. À ce titre, on peut dire que notre société, bien évidemment, postmoderne, est devenue une société insensée. Donc une société qui court à sa perte. Pourquoi l'homme de la parabole est-il un insensé? Bien, par le fait qu'il pense que seule l'abondance de biens matériels est la source du bonheur pour l'homme. Mais Jésus ne perçoit là, en fait, quoi que de l'égoïsme dans le cœur de ce riche. Cela se voit particulièrement d'ailleurs à travers les 11 fois où le riche déclare « je, mon, ma, mes », hein, pronom possessif, première personne du singulier. Dans tout ce qu'il entreprend, oui, c'est lui. Dieu n'existe pas. Et sa motivation est purement égoïste et cupide. C'est pourquoi un des nombreux mensonges de l'esprit de maman est aussi de faire croire que notre source d'approvisionnement, c'est notre travail, nos investissements bancaires ou tout autre canal par lequel l'argent me parvient. Mais finalement, je l'ai dit tout à l'heure et je le repose la question, n'est-ce pas Dieu qui me donne la santé pour travailler ? Sans l'énergie qu'il me communique, sans les compétences qu'il accorde pour mener à bien une tâche, sans ces conditions-là, je ne peux rien faire. Ne l'oublions pas cela. L'homme est persuadé que l'argent, fruit de son labeur, est bien à lui et qu'il n'a donc de compte à rendre à personne et surtout pas à Dieu. Et je parle principalement des gens du monde. Vous avez déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard? Je plains les héritiers à ce moment-là. Hein? Non, bien sûr. L'argent ne nous appartient pas. Et quand la mort nous surprend, comme dira Job, « Nu, je suis venu sur la terre et nu, je repartirai de cette terre. » Garde-toi, dira le livre de Deutéronome, en ton cœur de dire « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Garde le cap sur Dieu et sur le fait que sans lui, tu ne peux rien avoir. En tout cas, si nous sommes dans cet esprit-là, alors nous ne sommes pas pollués par l'esprit de maman. Ça, c'est une évidence. La deuxième pensée que l'on peut mettre en avant dans cette parabole, c'est que le riche croyait maître, se croyait maître en fait, mais il n'était qu'un esclave. Il était convaincu d'avoir le contrôle de sa vie et que ses richesses en étaient le moyen. Mais la parole de Dieu qui retentit alors est claire, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Le terme « redemandé » est instructif. Il était un terme commercial utilisé pour un emprunt. Et Jésus, dans le contexte, bien évidemment, nous fait comprendre ce qu'il veut dire. L'homme de notre histoire découvre que c'est à Dieu qu'appartient la vie. Là, on sort du cadre de la richesse, mais tout simplement du corps, notre âme, notre esprit. Il nous la donne sur cette terre sous forme de prêt, la vie. Il est donc en mesure de réclamer son prêt à tout moment. Et c'est pour cela que nous ne pouvons rien faire face à la mort. Qu'as-tu donc fait de la vie que je t'ai donnée? Ça, c'est une question que nous devons nous poser et que nous devons régulièrement nous poser. Il ne faut pas arriver à la maison de retraite en se disant « j'aurai tout le temps d'y réfléchir ». Parce que peut-être que les réponses qu'on va se donner vont être des réponses alors qui vont nous faire pleurer et qui vont dire « mais si je m'étais posé la question plus tôt, peut-être que j'aurais bifurqué, j'aurais changé de comportement, j'aurais vu autrement les choses ». Oui, que fais-tu de ta vie que je te donne aujourd'hui? Et ça, c'est un petit peu la même question que l'on peut poser. Que fais-tu des richesses que je te confie aussi dans ta vie? L'insensé n'avait donc pas de pouvoir quant à son avenir, puisque Jésus lui pose la question, dans le cas de la parabole, l'interrogation est donnée, « Est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Le sais-tu ? L'Ecclésiaste et Salomon en particulier, souvent on va un petit peu parler dans le livre de l'Ecclésiaste de l'argent. Je vous invite vraiment à le relire, le livre de l'Ecclésiaste, et en particulier au chapitre 5, je vais retrouver mon Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9, où il dit: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Et lui-même, d'ailleurs, l'Ecclésiaste, il râlait un petit peu parce qu'il disait je fais, je fabrique, je travaille, j'acquiers des richesses, c'est vrai. Et quand je serai mort, celui qui va venir après moi, qu'est-ce qu'il va faire? Autant il va tout enlever, il va tout perdre, etc. Voilà, ça ne me regarde plus à la limite. Mais c'est un peu, pour lui, frustrant de ne pas savoir que quelque part, les choses vont se poursuivre comme lui avait envie que cela se poursuive. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et il faut l'accepter comme tel. Un peu plus loin, je crois que c'est le verset 13, il dit: ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux, il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave, il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? Alors, il ne faut pas faire de ce verset un prétexte à l'oisiveté, en se disant de toute façon, ça ne sert à rien, voilà, non, bien sûr. Mais entre l'oisiveté et la puissance de Mammon sur nous, il y a quand même une frontière, en tout cas un espace qui est large. Oui, est-ce que ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Et puis, troisième point, troisième pensée qu'on peut donner dans cette parabole, c'est que le riche se croit, il est riche, mais en fait, il était pauvre. Et cette dernière déclaration devrait nous porter à réfléchir, nous aussi, sur cette question: est-ce que nous sommes riches, d'abord pour Dieu ? Comment puis-je être riche pour Dieu ? Eh bien, en possédant ces richesses spirituelles, morales, qui viennent de sa parole. Et cette parole ne retourne pas à lui sans ses effets. Ces richesses-là, c'est Dieu lui-même qui nous les donne. Et vous savez, j'aime beaucoup ce texte d'Ésaïe, un texte que l'on connaît d'ailleurs, hein, Ésaïe 55, qui je trouve pertinent à ce sujet, où le prophète nous dit: « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Vous imaginez arriver dans votre magasin du coin, au supermarché, avec votre Bible ouverte à Ésaïe 55, versets 1 et 2, et vous dites: voyez, Seigneur me demande de venir ici pour acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. C'est écrit noir sur blanc. C'est intéressant, hein? Vous allez vous faire, bien évidemment, remettre en place. Mais, en fait, avec Dieu, on n'a pas besoin d'argent, parce que tout a été déjà payé. C'est pour ça que le thème de l'argent est quelque part... Il y est là, mais quelqu'un l'a payé, cela, Dieu lui-même. Et dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, eh bien, c'est Christ qui l'a payé, nous le savons, qui a tout payé. Et à ce titre, nous pouvons venir prendre gratuitement ce salut qui nous est accordé. Quel paradoxe, donc. L'argent et le travail sont ici une métaphore dans Ésaïe de vains et laborieux efforts de l'homme pour trouver le bonheur. Ce bonheur ici-bas. Et la paix de la conscience pour l'au-delà. Les aliments dont il est question et qui sont offerts sont une image du salut que Dieu promet gratuitement et largement à la seule condition de venir le chercher, sans argent. Et c'est un message qu'il nous faut rappeler à ce monde d'aujourd'hui, que le message de l'Évangile est un message gratuit parce que Dieu a déjà payé les choses. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu adopte la bonne attitude par rapport à l'argent, cela va toucher positivement tous les autres domaines de sa vie. L'argent a le pouvoir de prendre la place de Dieu dans notre cœur, si nous n'y faisons pas attention. L'argent a le pouvoir de disqualifier un chrétien pour le ministère. Combien d'hommes qui voulaient s'engager pour Dieu, de personnes qui voulaient s'engager pour Dieu, se sont laissés piéger par l'argent et ont été disqualifiés. De corrompre un serviteur de Dieu qui aussi n'est pas dans, peut être fragilisé dans ce domaine-là. De transformer une église en maison de trafic, ça peut être le cas. D'induire à tordre le sens des Écritures sous la puissance de Mammon, sous le prétexte d'argent et de Mammon. Et cette dernière expression me fait penser ou m'a rappelé que cela peut être le cas dans certaines églises aujourd'hui avec cette théorie que l'on entend, la fameuse évangile de prospérité, qui est liée à l'argent. Le principe de ce faux évangile est de donner pour et dans l'intention de recevoir, alors que la parole de Dieu montre clairement l'inverse. Nous donnons parce que nous avons reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Ça, c'est l'esprit qui s'oppose à Mammon. Et ce que nous recevons, nous l'avons dit, est pure grâce et fondé sur les promesses de Dieu envers ses enfants, qui va pourvoir à leurs besoins. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, ça pourrait paraître à nos yeux une injustice, même au sein du corps de Christ. Pourquoi l'un a plus que l'autre ? Hein, c'est comme ça. Dieu sait pourquoi. Mais j'en parlerai ce soir par rapport à ce que Paul écrit dans le Nouveau Testament sur le superflu qui pourvoit aux besoins des autres, etc. Il y a un équilibre qu'il faut arriver à trouver et une sagesse qu'il faut avoir et garder sans effectivement entrer dans un esprit de compétition, de jalousie, d'envie. Hein, je reviens au thème du contentement que j'ai nommé tout à l'heure. Cherchez, dit Jésus, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est un principe que Dieu donne à tous ses enfants. Et qu'ils soient plus ou moins fortunés. Mais chacun a une responsabilité en fonction de ça. Alors, les églises qui prônent cet évangile dit de la prospérité savent que Dieu donne, elles ont raison, mais je crois qu'elles oublient un peu que Dieu peut aussi reprendre. Ça les gêne quelque part. Je pense à ce chant que peut-être nous entonnons et que vous entonnez, qui dit « Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Dans le domaine de l'argent, Dieu me donne, je le bénis. Et si Dieu me le reprend, est-ce que je suis prêt à le bénir ? Si pour une raison ou une autre, il m'enlève ce qu'il m'a donné. Et ça peut être par plein de situations. Perte de travail, problème, un incendie, que c'est, même si on est hyper assuré, bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, ça peut paraître un peu paradoxal. Dans le domaine, j'allais dire, de nos relations, du sentiment, tu donnes et tu reprends. Quand Dieu donne un enfant à une famille, hein, et puis que c'est un drame, bien sûr, il est repris. Est-ce que je choisis, en tant qu'enfant de Dieu, de dire, je choisis de bénir encore l'Éternel ? Je sais que ce chant-là, je n'ai pas pu le chanter, j'ai du mal à le chanter d'ailleurs encore, suite à, ça fait maintenant 15 ans, mais vous voyez, on a encore, on est toujours des cicatrices après la mort de ma femme. Eh bien oui, tu donnes et tu reprends, Seigneur, oui, quand tu donnes, je suis content, mais quand tu reprends, je le suis moins. Et pourtant, quand tu reprends, tu as une raison, comme quand tu m'as donné. Et dans le domaine de l'argent, c'est peut-être plus difficile d'imaginer que Dieu a une raison quand il nous a repris peut-être quelque chose. Pas facile à discerner, il faut du temps. Mais il faut surtout l'accepter. Donc, par rapport à l'évangile de prospérité, ne laissons jamais un verset ou une partie de verset être pris hors contexte pour lui faire dire le contraire de ce qu'il veut dire. Pierre qualifie ceux qui font cela de personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens pour leur propre ruine. Cet évangile de prospérité martèle que le chrétien doit posséder des richesses financières et matérielles qui sont, au dire de ces défenseurs de ce faux évangile, un signe de la bénédiction de Dieu. Je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Et ce slogan, je l'ai dit, c'est pour eux, donner pour recevoir. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Mais c'est pervers. C'est pas du tout ce que la Bible nous demande de faire. Et on le verra plus précisément et plus concrètement ce soir avec le thème du Nouveau Testament. Plus vous donnez, disait-il, et plus Dieu doit vous bénir. Cette pensée va à l'encontre, je l'ai dit, du message de la parole, du témoignage de l'apôtre Paul, et elle alimente des motivations égoïstes, finalement, du croyant. Finalement, je donne pour recevoir. Et c'est pervers parce que on peut dire, mais finalement, si je reçois encore plus, je vais pouvoir donner encore plus. Oui, c'est vrai. Mais tu le fais pour recevoir d'abord. Et entre-temps, ça va passer entre tes mains. Et quand ça passe entre tes mains, il y a toujours un piège. Parce que tu n'es pas fait de bois et que tu peux te faire piéger par la puissance de l'argent, qui est pernicieux. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas réclamer la puissance de maman sous prétexte de pouvoir donner à l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas dans ce sens que ça se passe. Si Paul écrit que celui qui sème peu moissonne peu, que celui qui sème en abondance moissonnera en abondance, il faut rappeler que le but et la motivation à donner de Paul, c'était l'assistance des frères à Jérusalem. Et aucun cas, et en aucun cas ce verset ne peut être pris comme prétexte d'encourager à donner pour recevoir. Il y a un contexte dans lequel Paul l'a donné, et il n'en a pas reparlé ailleurs. Entendu, si vous donnez, mes frères, eh bien, Dieu aussi pourvoira vos besoins. Mais ce n'est pas dans l'idée, plus vous donnerez, et plus Dieu doit vous rendre en retour et va vous donner. La nature humaine étant foncièrement égocentrique, voilà que dans l'Évangile même, ou plutôt dans l'Église, on enseigne aux croyants comment recevoir encore plus pour satisfaire peut-être des désirs qui sont plus personnels et charnels. On leur explique qu'ils peuvent devenir riches s'ils donnent, et que l'argent et les possessions matérielles sont donc des signes évidents d'une bénédiction divine. Comme d'ailleurs le signe de la santé, dans ce même principe d'évangile de prospérité. Hein? Un chrétien ne peut pas être malade. Je ne vois pas ça dans l'Écriture. Hein? Et moi, alors à ce moment-là, je leur demande, et je leur dis, mais j'aimerais bien que vous alliez interroger l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit en particulier dans une de ses épîtres, j'ai laissé Trophine malade à Myé. Mais comment, Paul, tu as laissé Trophine malade? Tu n'as pas guéri? Non, Paul n'a pas guéri. Et pourtant, Paul a guéri d'autres. On touchait même ses vêtements pour être guéri. Ah ben oui, je l'ai laissé malade. Donc, et il ne dit pas pour autant que Trophime était en dehors du coup, pas sous la bénédiction, etc. Il ne l'avait pas livré à Satan. Attention donc. Et Pierre précise aussi, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Et c'est ce que nous voyons un petit peu à travers l'évangile de prospérité. Le chemin de la vraie bénédiction, et donc le message de l'Évangile, passe par le recevoir pour donner. Mais je l'ai rappelé, ce recevoir est un don de Dieu, je l'accepte comme un don de Dieu, je ne le recherche pas, je le reçois par grâce. Je peux avoir effectivement des moyens matériels, ou en tout cas intellectuels, pour pouvoir recevoir, peut-être, mais c'est quand même Dieu qui me l'a donné. Ses moyens matériels ou ses moyens intellectuels. Tout est grâce. Donc ce que je le reçois et je dois le gérer. Et ça, on en parlera en deuxième partie cet après-midi, ce soir, dans le Dieu d'abord. Je dois gérer ce que Dieu me donne. Si nous sommes prêts à pourvoir aux besoins des autres, dans la mesure de nos moyens, nous pouvons être alors assurés que Dieu s'occupera de nos propres intérêts. Si nous focalisons l'attention sur l'autre, c'est-à-dire sur le besoin qu'il y a autour, alors, automatiquement, moi, les miens, Dieu va s'en occuper. Et là, il donnera ce dont j'ai besoin, et en fonction de ce que je vais recevoir, je pourrai à mon tour donner. Mais je ne vais pas supplier Dieu de me donner en disant, tu vois, si j'ai beaucoup, je pourrais donner beaucoup à ton Église. Lorsque le sarment reçoit la vie du cep dans l'image de Jean 15, il ne peut faire autre chose que de donner. N'est-ce pas? C'est sa nature même. Attention donc à ce que les mobiles qui nous poussent à donner soient purs. C'est pourquoi il est impossible de connaître une joie débordante en étant animé par une mauvaise motivation lorsque nous faisons un don, et j'en parlerai un peu plus longuement ce soir. Nous ne devrions jamais donner en essayant de forcer Dieu à faire quelque chose en retour. C'est un peu un piège. Tu vois, Seigneur, quand même, je suis engagé bénévolement dans ton œuvre à l'Église. Tu me dois un peu quelque chose au retour, quand même. Ça, c'est la mentalité et la culture du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le bénévolat se perd, hein. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire pour recevoir. Heureusement encore, dans nos églises, nous avons cette pensée du bénévolat. Mais dans le domaine de la foi, Seigneur, voilà, je, quand même, même si je ne le fais pas pour ça, Seigneur, ce serait pas mal si. On peut se surprendre à dire ça. Et celui qui ne donne que lorsqu'on le lui demande a déjà trop attendu pour le faire. Vous avez reçu gratuitement, Matthieu 10, verset 8, donnez gratuitement. Recevoir, c'est humain, donner, c'est divin, quelqu'un a dit. Je trouve que ça assez intéressant. Ne cherchons donc pas à donner pour recevoir, mais bien plutôt à recevoir pour donner. Et voyez l'inversion dans le thème de l'évangile et le suivant. Et c'est là que les faux docteurs jouent sur des textes, sur des mots, prétextant, disant que c'est tiré de l'écriture, verset pris hors contexte, et là on fait une théorie, on fait une théologie, et on fait perdre des individus, non seulement on ne les amène pas à la crainte de Dieu, mais en plus, ils se démunissent matériellement pour enrichir ceux qui sont cupides. C'est ainsi que nous pouvons vivre cette parole de l'Écriture, et vous la connaissez, je l'espère, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans l'évangile de prospérité, c'est l'inverse. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Voilà. Et bien évidemment, le prédicateur, il est tout content de recevoir. C'est pour cela que vous n'aurez pas de corbeille à la sortie. On voit dans cet esprit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout au long de l'évangile, c'est impressionnant de voir les exemples. J'en ai repéré quelques-uns, par exemple celui de Marie, qui économise patiemment pour acquérir un parfum de grand prix qu'elle va offrir à Jésus. C'est celui de Joseph d'Arimathée, qui avait acheté un linceul destiné à envelopper le corps de Jésus. Il a donné. Celui de Nicodème, qui va aller acheter plus de 32 litres. 32 litres, vous imaginez ce que c'est, hein? 32 briques de lait sur un caddie, vous imaginez, pour embaumer le corps de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est celui aussi des femmes, le sabbat passé, qui achètent elles aussi des aromates dans le but d'embaumer le corps de Jésus, comme Nicodème. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, on a essayé un petit peu de discerner la puissance de Mammon, de voir la subtilité qu'il pouvait y avoir derrière dans notre monde aujourd'hui et un monde matérialiste ô combien. Donc, il faut y faire d'autant plus attention, nous, aujourd'hui. Mais j'aimerais juste terminer par vous poser et vous laisser trois questions que vous allez vous-même prendre pour vous-même et prendre le temps d'y réfléchir dans les temps qui vont venir. Hein. Voilà, c'est trois questions qui sont les suivantes. La première, les richesses ont-elles exercé sur moi un réel attrait? Ou exercent-elles aujourd'hui sur moi un réel attrait? Posons-nous cette question. La deuxième question, ai-je souvent cédé au désir d'en posséder en abondance? Et troisième question, si le Saint-Esprit me révèle mon attachement aux richesses, suis-je alors disposé à m'humilier devant Dieu pour qu'il me libère de cette emprise? Voilà trois interrogations que je voudrais vous laisser en toute simplicité pour que vous alliez plus loin aussi peut-être dans votre réflexion et dans votre recherche de la volonté de Dieu à cet égard. Voilà, j'ai fait un petit peu, je brossais un tableau un peu succinct, j'en suis conscient de la situation, de Mammon, etc., essayer d'interpeller. Nous serons plus concrets ce soir sur la manière particulièrement de voir comment dans la Bible l'argent était utilisé et ce que nous devons faire aujourd'hui par rapport au Nouveau Testament qu'est-ce qui est préconisé. Et on aura des exemples peut-être assez concrets aussi. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, encore terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te prions encore de nous aider à discerner et à cerner ce sujet qui est large, vaste, qui n'est pas toujours simple, parce que nous avons une culture peut-être un peu particulière, que sais-je. En tout cas, Seigneur, tu veux nous éclairer encore et nous donner de comprendre qu'il y a un piège grossier, mais aussi un piège important à travers la puissance de Mammon. Puissions-nous, Seigneur, te servir, puissions-nous t'adorer toi seul et n'avoir rien à faire avec Mammon. Que l'Esprit de Dieu discerne en nous et nous fasse discerner ce que nous faisons, ce que nous sommes devant cette puissance diabolique. Seigneur, nous te prions pour ce monde dans lequel nous sommes, ce monde qui est de plus en plus corrompu et cupide, parce qu'effectivement, Satan en est le prince et qu'il détient et tient le monde derrière cette puissance de l'argent et du matérialisme. En tout cas, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, peut-être, autour de nous sont dans cette emprise-là, afin que tu les éclaires, que tu leur montres, Seigneur, ce chemin de la vérité, ce chemin de la liberté en Christ. Et si quelqu'un ce soir s'est rendu compte aussi, à travers ces dernières questions, qu'il a un souci, qu'il y a quelque chose à régler dans le domaine de l'argent, qu'il puisse le faire sans tarder. En tout cas, Seigneur, merci de nous rappeler toutes ces choses et nous te demandons dans ta grâce de nous donner vraiment d'obéir à ta parole et d'y rester fidèlement attaché. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen.